Invisible. Changeons notre regard sur le handicap. Invisible.
À l'Université de Poitiers, le service handicap étudiant accompagne tous les étudiants ayant une problématique de santé dans la mise en place d'aménagements d'études et d'examens. Que ces handicaps soient temporaires, permanents, visibles ou invisibles, les étudiants peuvent nous contacter. Le handicap invisible peut se définir comme quelque chose que l'on ne peut identifier au premier abord, et contrairement aux idées reçues, cela représente 80% des handicaps. À travers différents témoignages d'étudiants en situation de handicap invisible, nous vous proposons d'en découvrir un peu plus sur la réalité de leur accompagnement.
Je m'appelle Justine Fontaine, je suis étudiante en L2 de psychologie. J'ai commencé donc l'université en 2022, ça fait 2 ans donc, que j'étudie à l'université de Poitiers dans la psychologie. C'est un sujet qui me tient à cœur et c'est quelque chose qui m'intéresse beaucoup et que j'ai envie de découvrir plus de choses sur ce sujet.
Est-ce que tu peux nous parler des aménagements spécifiques dont tu bénéficiais au lycée ?
J'ai une ASH depuis le CE1, plus un tiers-temps pour les examens. Et donc c'était à peu près tout. Oui, c'était les aménagements principaux et puis aussi l'absence, je ne faisais pas de sport. Et ça a été une bataille de pouvoir avoir une AESH aussi. Ça a été un long combat qu'on a mené tout le long de ma scolarité.
Une AESH, est-ce que tu peux préciser ce que c'est ?
Une AESH, c'est une accompagnante. Alors, je ne sais plus exactement le... Mais en gros, c'est anciennement une AVS. C'est pour accompagner au quotidien l'élève, par exemple dans la prise de notes, pour ranger les affaires, pour mieux comprendre en classe ce qui est le cours, ce qui est dit en cours. En gros, c'est pour accompagner l'élève dans sa scolarité, pour mieux l'intégrer et aider à réussir sa scolarité.
Est-ce que tu avais une appréhension avant que ne débute la première année ?
Au début, c'est vrai que je me posais beaucoup la question, et c'était la question que se posaient beaucoup mes parents aussi, c'était est-ce que j'allais pouvoir assurer, on va dire, le rôle que faisait l'AESH, combler son absence. Et ça n'a pas été si difficile que je le pensais. J'ai quand même réussi à prendre les cours normalement. Après aussi, j'étais accompagnée, j'avais des amis qui pouvaient me repasser mes cours ou mes parents pour m'aider. Voilà, j'avais quand même du soutien, mais je pensais pas que j'allais aussi bien réussir, disons. Je suis contente parce qu'à chaque phase de ma scolarité, que ce soit école primaire, collège, lycée ou l'université, on doutait de ma capacité à pouvoir réussir, à cause de mes difficultés. Donc ça a été d'un côté, je voulais prouver que j'étais capable de le faire, mais d'un autre côté, c'est vrai que comme il n'y a plus d'AESH à l'université, ça m'a beaucoup angoissée aussi, de savoir si j'allais pouvoir réussir à tout gérer, en plus que j'ai intégré un nouvel appartement.
Quelles difficultés propres à ton handicap rencontres-tu dans ton quotidien à l'université ?
Donc à l'université, ce qui peut être compliqué, c'est par exemple la prise de cours tout simplement parce que j'écris que d'une main, d'où ma pathologie du côté gauche. J'ai une fatigabilité chronique, donc c'est difficile de suivre les cours. Parfois, ça peut être tout simplement 1h30 de cours, ou des fois, je peux ressentir une fatigue au bout de la fin de journée. Mais c'est une fatigabilité qui est beaucoup plus importante qu'on va dire une personne lambda. Mais je sais que je fournis beaucoup plus d'efforts qu'une une autre personne, donc c'est...
D'accord.
C'est pas la même fatigue qu'une personne qui sort du travail, bien que c'est fatigant aussi, bien sûr, mais là, c'est une fatigabilité, oui, pathologique, donc c'est... Puis ça fait des symptômes, pas d'une fatigue, on va dire, normale, c'est... Voilà, perte d'équilibre, vertige, maux de tête, et puis il y a des choses, il y a des sensations qui sont difficiles aussi à décrire, c'est très personnel à chacun aussi, je pense. Elle varie selon les jours, ça peut être une journée, je peux très bien réussir tous les cours comme les autres, et une autre où au bout d'une heure et demie, c'est plus possible, c'est très variable.
Et cette fatigabilité excessive, est-ce qu'elle a des incidences en dehors des cours ?
Enfin, je dois mettre 2 fois plus de temps que tout le monde à apprendre, parce que j'ai des problèmes de mémorisation. Donc voilà, déjà, ça fait beaucoup de cours à réviser. Je sais qu'il faut que j'y passe 2 fois plus de temps. Puis j'ai beaucoup de rendez-vous paramédicaux à côté, de suivi. Donc c'est vrai qu'en fait, ça me fait vraiment des journées très chargées. Et j'ai pas forcément beaucoup de temps pour souffler non plus. Et ça me prend aussi beaucoup de temps, même si c'est nécessaire, c'est des soins. Mais c'est vrai que ça me prend beaucoup de temps.
Est-ce qu'il y a des raisons particulières à cette fatigabilité chronique et comment va-t-elle se manifester ?
Comme tout le monde, quand on n'a pas les heures de sommeil complètes ou si on a une grosse journée, bien sûr, c'est comme tout le monde, ça me fatigue encore plus, mais c'est une fatigabilité qui est différente. C'est, c'est beaucoup plus, c'est plus profond, je sais pas trop comment dire, parce que je ressens pas la fatigue d'une personne, on va dire, sans fatigabilité chronique, mais c'est quelque chose, des fois, c'est juste simplement parler le soir, c'est compliqué parce que je suis extrêmement fatiguée. Et ça peut entraîner beaucoup de vertiges, maux de tête. Ça m'est déjà arrivé d'aller en cours alors que je chantais que j'avais plus beaucoup d'équilibre, par exemple. C'est au point où c'est très fort, oui, je peux en être pas loin du malaise, voilà, c'est compliqué.
Comment parviens-tu à contrer cette fatigabilité lorsqu'elle survient ?
Ça dépend des fois c'est juste me poser 5 minutes, boire un coup et penser à autre chose, regarder ailleurs. En fait, ne plus être fixé sur l'examen pour pouvoir me ressourcer et puis après pouvoir revenir comme avant parce qu'à un moment donné, je sens une charge et que j'ai beaucoup plus de mal à réfléchir.
Du coup, il y a un changement de rythme dans tes études, tu as aussi emménagé dans ton propre appartement, ça doit rajouter une fatigue supplémentaire, comment ça se passe pour toi ?
Alors j'ai toujours mes parents quand même pour me soutenir, ma mère notamment qui me fait par exemple, qui me prépare des repas, qui m'aide dans mon ménage. Mais c'est vrai que j'ai vu un aspect, j'ai vu beaucoup de bénéfices, parce que moi je me ressource beaucoup aussi quand je suis toute seule. C'est vraiment, je suis quelqu'un d'assez solitaire, j'aime bien être avec d'autres personnes, mais c'est vrai que pour me ressourcer vraiment, j'ai besoin d'être toute seule. C'est là au moment où je récupère le plus. Donc c'est vrai qu'à mon propre appartement, ça a été un avantage. Après, c'est vrai que la première année, ça a été un peu difficile. Je pense comme pour tous les étudiants qui arrivent dans un nouvel appartement seul, même des fois qui viennent de loin. Mais j'ai assez vite pris le rythme et puis mes parents étaient pas loin. Donc c'est l'avantage comparé à d'autres étudiants qui, dont leurs parents habitent loin. Et puis après, sinon sur le campus, je pense que je me suis plutôt bien intégrée. Alors je suis pas une personne hyper sociale, donc j'ai pas non plus énormément d'amis, mais j'ai quelques connaissances. Et puis ça, c'est mon intégration s'est plutôt bien passée, je dirais, dans l'ensemble.
Tu as trouvé du soutien de la part des autres étudiants à ton arrivée à l'université ?
Oui, j'ai une amie particulièrement, on se connaissait au lycée et qui a intégré l'université en même temps que moi. Mais c'est vrai que comme elle a redoublé cette année, on se voit plus forcément. Donc en fait, c'est vrai que j'y pensais plus forcément, mais c'est vrai que sur le coup, ça a été, on était toutes les deux un peu dans le même bain, disons. Et donc alors même si moi je pouvais avoir plus de difficultés, voilà, on vivait, on va dire, la même chose, donc on s'est un peu soutenus mutuellement.
Est-ce que tu arrives à prendre du temps en dehors de tes études et t'aménager des temps un petit peu plus personnels pour souffler ?
J'arrive pas à me dire, bah tiens, au lieu de travailler, je vais lire. C'est très rare, ça m'est peut-être arrivé une ou deux fois, mais j'ai besoin de me dire, bah par exemple, jeudi après-midi de 14h à 17h, je lis, je fais rien d'autre, ou je fais que des choses en tout cas qui me font plaisir. Aller à la librairie, faire une balade, enfin voilà, que des choses qui me font plaisir pour me ressourcer aussi.
Comment est-ce que tu as connu le service handicap étudiant ?
Au lycée, c'était mon CPE qui me suivait, spécialisé plus dans le traitement des dossiers en situation de handicap, qui m'a indiqué le service Handisup pour l'intégration avant l'université. Et c'est à Handisup qu'on m'a donné le contact du service handicap étudiant pour pouvoir échanger pour ma scolarité à l'université, pour voir ce qui était possible de faire comme aménagement.
Comment s'est passé ton premier contact avec le service handicap ? Quelles ont été les démarches ? À quel moment ont été validés, mis en place tes aménagements ?
J'ai fait une première rencontre avec ma mère. Donc c'est là, c'était la première rencontre où on a tout de suite décidé, il me semble, des aménagements. Après, la seconde étape, ça a été la rencontre avec le médecin pour valider mes aménagements. Et la troisième étape, et après, il y a eu la validation et donc j'ai reçu mon certificat comme quoi j'avais des aménagements. Et donc après, il n'y a pas plus de démarches que ça.
Ok.
Ça a été anticipé avant les premiers cours. J'ai fait la démarche, j'ai commencé en mai et le rendez-vous annuel ou même les rendez-vous, c'est souvent en juillet, août avant que l'année scolaire redémarre.
Parle-nous de ces aménagements. Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus ?
Le plus gros aménagement qu'ils mettent, c'est mon preneur de notes qui me prend mes notes au quotidien et donc via un Google Doc et qui me transmet les cours. Alors, je n'utilise pas forcément les cours de cet étudiant qui me prend les cours, mais ça peut me servir si j'ai des trous dans mes cours, s'il y a un cours où je n'ai pas pu aller parce que j'étais absente ou j'étais trop fatiguée. Après, c'est un tiers-temps pour les examens. Ça me permet de pouvoir faire des pauses, parce que je ne mets pas forcément plus de temps que tout le monde, mais c'est que j'ai besoin de faire des pauses pour pouvoir réussir à réfléchir correctement et ne pas être trop envahi justement par la fatigue ou autre. Et c'est aussi un secrétaire d'examen qui est surtout là lorsqu'il y a des QCM, pour reporter mes réponses parce que je me trompais souvent dans les cases à reporter les bonnes réponses sur les questions.
Parmi tes aménagements d'examen, tu as la possibilité d'être dans une salle à part. Est-ce que cette salle est un aménagement important pour toi ?
C'est peut-être un des aménagements aussi les plus importants. Parce que c'est vrai, on est moins de monde que dans un amphi normal, c'est vrai, quand il y a du monde à côté, il y a toujours quand même des bruits, même si c'est silencieux, il y a toujours des gens qui bougent. Et c'est vrai que ça parasite beaucoup ma réflexion. C'est essentiel, aussi bien essentiel peut-être que le secrétaire d'examen. Donc c'est un peu ma condition aussi pour une réussite, on va dire, optimale.
Du coup, on sait qu'il y a beaucoup de compétitivité en psychologie, il y a beaucoup d'étudiants. Est-ce que tu as été fière de passer en deuxième année ?
Oui, ça a été un étonnement de ma part déjà de réussir la première année parce qu'on nous a dit, dès le premier cours de L1, on nous a dit il y a 33% qui passent. Donc c'était difficile de me dire que j'allais faire partir des 30%. Donc oui, c'est une certaine fierté de me dire que je peux réussir malgré mes difficultés, mes handicaps. Et donc voilà, je veux aussi m'en servir pour montrer que c'est possible. Et que voilà, avoir un handicap ne veut pas dire impossibilité de faire des études ou toujours faire des études courtes, parce que ma mère envisageait par exemple que je fasse un BTS, ou pas que c'est, je dénigre pas le fait de faire un BTS, mais moi je me voyais plus dans des études longues, notamment pour devenir psychologue. Voilà, c'est depuis le collège, je pense que j'avais un peu envie de faire ça, mais je m'autorisais pas forcément à me dire que je veux faire ça, parce que déjà moi non plus je pensais pas que j'allais y arriver, et ma famille me disait que c'était trop compliqué. Donc c'est vrai que j'envisageais des métiers avec moins d'études, mais c'est vrai que depuis le lycée où je commençais vraiment à m'interroger sur mon orientation, je me suis dit que c'était ce qui était le plus évident, de faire une licence de psychologie.
Quel conseil, Justine, quelles recommandations adresserais-tu à des étudiants, futurs étudiants, qui, comme toi, voudraient bénéficier d'aménagements spécifiques ?
De ne pas trop vouloir douter de son parcours à cause de ses difficultés. Et ce serait de se faire confiance aussi et de ne pas restreindre son choix de parcours scolaire et universitaire parce qu'on a des difficultés. Parce que c'est se mettre aussi des barrières. Et je leur dirais de ne pas hésiter à venir solliciter le service, parce que c'est un service qui est là pour nous aider, dans notre scolarité, de pouvoir mieux intégrer l'université et de pouvoir réussir ses études en ayant des besoins qui sont plus adaptés. Et je dirais aussi que moi, si j'ai voulu faire aussi une fac, c'était pas le choix privilégié par ma famille, parce qu'ils disaient toujours que ça allait être beaucoup coûteux, que j'allais pas forcément réussir. Une partie de ma famille m'a dit que j'allais pas réussir. Donc ce serait aussi de montrer qu'on peut avoir un handicap et réussir à l'université, que c'est pas incompatible.
Ce podcast a été réalisé par l'Université de Poitiers et sera disponible en ligne sur notre site. Un grand merci à tous les étudiants ayant participé. N'hésitez pas à nous contacter si vous en ressentez le besoin.